Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Comex de la saison. Le choc de ce week-end européen aura donc accouché de la victoire d'Arsenal à l'Emirates Stadium face aux Reds de Jürgen Klopp. Une victoire nette et sans bavure pendant laquelle le collectif londonien aura brillé en mettant en avant ses individualités. Il est pourtant paradoxal d'observer à la fin du match que le maître à jouer des Gunners, Martin Odegaard, finissait le match avec un total de 0 but et 0 passe décisive. Lui, dont l'influence sur le jeu fut si importante, est toujours avec une justesse absolue. Son décalage entre les jambes pour créer le déséquilibre à la 3e minute de jeu, sa temporisation puis son ouverture lumineuse sur le premier but pour Kai Havertz, ses déplacements entre les lignes tout au long de la première mi-temps, ses contrôles toujours soyeux et parfaitement orientés, sa capacité d'évitement pour dribbler l'adversaire, tout était réuni hier pour faire perdurer le mythe du numéro 10 à l'ancienne, élégant et désinvolte. Une élégance qui rappelle d'ailleurs un événement tragique survenu le mois dernier, puisque le 8 janvier, Franz Beckenbauer s'en est allé. Lui qui laissa derrière lui toute une génération de passionnés qui auront vécu à travers ses exploits à travers la RFA des années 70. Au-delà d'un des palmarès individuels et collectifs les plus fournis de l'histoire du ballon rond, les grands médias internationaux se sont surtout rappelés au bon souvenir du joueur qu'était le Kaiser. Sa silhouette élancée, son buste relevé, son regard porté au loin, ses extérieurs du pied, tous n'avaient Dieu que pour l'élégance de l'empereur. Une élégance incarnée par une posture, par une conduite de balle, mais aussi peut-être, pour les plus conservateurs d'entre nous, par un autre football. Un football où les maillots étaient épurés, minimalistes, un football dénué de toute distraction mercantile. Une élégance qui aurait donc disparu petit à petit avec le temps et la démocratisation de ce sport. La course aux beaux gestes a été remplacée par la course aux statistiques de buts, de kilomètres parcourus et de pourcentage de passes réussies. Une évolution qui peut s'expliquer de plusieurs façons. L'hyper-professionnalisation du football en est une. Lui qui a permis aux joueurs d'atteindre l'excellence dans le domaine de la performance physique, réduisant le temps de prise de décision dans le jeu et obligeant certains à privilégier l'efficacité à la dextérité. À cette hyper-professionnalisation, on peut ajouter l'évolution des schémas tactiques, passant du marquage individuel des années 80 au marquage collectif, pour finir par une guardiolisation, puis même une gegenpressingisation, si on peut utiliser ce terme horrible, du football européen, où le rôle des joueurs se sont diversifiés et évolués, ne laissant que très peu de place au pur numéro 10, souvent considérés comme les dépositaires de l'élégance sur un terrain de football. C'est probablement aussi la raison pour laquelle la retraite de joueurs comme Mesut Özil ou David Silva émeuvent pour plus les internets que celle de joueurs lambda, puisqu'ils incarnent peut-être encore plus le football d'une époque en passe d'être révolu. Mais comment s'intéresser à ce sujet sans savoir ce qui définit réellement l'élégance? Peut-on la définir? Une simple recherche Google nous offre une définition simple. L'élégance serait une qualité esthétique de ce qui est harmonieux et gracieux dans la simplicité. Une définition qui correspond parfaitement donc aux joueurs cités précédemment. Et dans le monde du sport, malheureusement, peu nombreux furent les œuvres culturelles à s'intéresser à ce sujet de l'élégance. On peut citer par exemple le documentaire Zidane, un portrait du 21e siècle qui revient sur l'un des derniers matchs de la carrière de Zizou avec plus de 17 caméras positionnées dans le stade Santiago Bernabéu pour admirer le moindre geste de l'artiste et qui fut l'objet d'une exposition récemment à la Philharmonie de Paris. Le chanteur-rappeur Abdel Malik avait lui aussi consacré une chanson au double Z qu'il intitula simplement L'artiste. Et dans le domaine littéraire, on a la chance d'avoir avec nous ce soir deux auteurs qui se sont intéressés à ce sujet de très près. Toi Thibaut avec la magie du football et toi Chérif à travers ta biographie de Johan Cruyff, évidemment esthète par excellence. Qui a tué l'élégance? C'est donc le sujet de notre 16e épisode du Comex. C'est pour ça évidemment on a fait appel à nos meilleurs membres. Lui, il a évidemment eu l'élégance, d'accepter notre invitation pour participer à cette émission. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Je l'ai spoilé il y a quelques secondes. Chérif Guémour est avec nous ce soir. Bienvenue, Chérif. Bienvenue dans le Comex. J'espère que tu vas bien.
Ouais, bonsoir à tous. Thibaut, David, Florian, Valentin, salut à tous. Et à ceux qui nous écoutent.
Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas reçu sur 11e Art. Quelles sont les actualités dernièrement, Chérif?
Les actualités, ben justement, ça touche à l'esthétisme. J'ai beaucoup écrit sur l'esthétisme des maillots, des dernières productions Sopress qui s'appelle Degen. C'est un peu la continuité de SoFoot.com, mais sur tout ce qui touche à la mode, au sportswear, toutes ces notions-là, donc où l'esthétisme, justement, des corps, des maillots, des couleurs, colle un peu à la thématique de ce soir.
Très bien. Eh ben, écoute, on ira faire
pour un ça, je suis d'accord avec toi, hein, quand tu parlais tout à l'heure de...
Attention, chérie, ce n'est que le sommaire. Hein.
C'est pour ça, quand tu parlais de l'esthétisme des maillots d'autrefois, justement, où il n'y avait pas de pub, ça joue aussi.
Exactement.
Ça joue aussi.
Exactement. En tout cas, allez faire un tour sur Degen, les articles sont très sympas. Lui, il a beau avoir écrit un livre sur l'élégance dans le football, il se balade quand même en doudoune sans manche sur la promenade des Anglais tous les dimanches. Je dois t'avouer que notre petite conversation de cet après-midi sur WhatsApp m'a un petit peu inquiété, Thibaut.
Ben, c'est la Côte d'Azur, les amis. C'était le... La doudoune sans manche, c'est comme le pantacourt, c'est un vêtement absurde.
Mais c'est ça. Après, l'exemple...
Paradoxal, enfin... en fait, c'est un vêtement paradoxal. T'as à la fois chaud et froid.
Ouais. L'excuse de la Côte d'Azur n'est
non,
pas...
Non, c'est fait... En fait, je t'explique. C'est fait pour un moment très précis. C'est pour le moment du café après le déjeuner. C'est-à-dire un moment où il fait un peu plus chaud. Donc, il fait entre 10 et 12 degrés l'été ici, où il y a du soleil. Il ne faut pas trop marcher à l'ombre. Où tu vas quand même avoir un petit peu de...
C'est que le sommaire, hein, Thibaut.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vas avoir un peu chaud quand même, mais pas suffisamment pour pas suffisamment froid pour venir avec ta doudoune, etc. Donc la doudoune sans manche, c'est vraiment un vêtement de Côte d'Azur, et en particulier de la côte italienne. C'est les Italiens qui portent le...
D'accord. Le
David Rachlin, l'Axis.
Ouais, exactement. Non,
mais eux ont dévoyé, ils ont déshonoré la doudoune sans manche.
Enfin, si c'était que la doudoune sans manche, ça irait, ouais, mais...
Bon, lui a eu l'élégance de se faire couper la parole toutes les deux minutes dans l'after la semaine dernière afin de faire désirer son retour au maximum dans le COMEX après 3 semaines d'absence. La forme, David ?
Alors, parfait, forme olympique. Et sache que ma petite explication de l'amortissement comptable, alors, j'étais un peu sceptique, a fait un vrai tabac. J'ai
C'est
eu
vrai
un nombre d'emails sur LinkedIn me disant « Ah mais tiens, enfin quelqu'un qui parle de l'amortissement comptable du joueur de foot, ça explique énormément de choses. Maintenant, on comprend mieux. Merci, David. »
Est-ce que tu as vu, j'ai pensé à toi, il y a eu 2 articles de The Athletic sur le sujet ce week-end.
Je savais pas, j'ai pas vu, j'ai pas lu. En
sur
fait,
les transferts, ils expliquent tout le système de transfert, pourquoi il y a eu beaucoup moins de transferts.
C'est voilà. Incroyable, mais je pensais avoir tapé à côté, pas du tout. J'ai eu une tonne de likes et des mecs qui m'ont dit mais merci beaucoup. Il y a eu même des discussions sur l'amortissement comptable. J'étais scié.
Génial, bravo à toi.
Non, pas bravo, j'étais scié.
Bravo quand même, ça va.
Quelle humilité. Et enfin, l'élégance, la vraie, lui, ça le connaît. Un fan de Mathieu Van Der Poel qui déguste un petit verre de blanc sur le marché de Chablis après une sortie vélo, le tout dans un cuissard bien moulant. Finalement, est-ce que c'est pas ça la définition de la classe, Flo?
S'il y a bien un cycliste qui a la définition de la classe, c'est clairement Mathieu Van Der Poel, surtout quand il est sur des chemins bien boueux au fin fond de la République tchèque.
C'est ça.
Quel championnat du monde, ouais. Qu'est-ce qu'il est fort.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Du monde de cyclocross pour la 6e fois ce week-end, Mathieu Van Der Poel. Bon, messieurs, évidemment, avant de commencer l'émission, je fais mon petit rappel hebdomadaire.
La génération Z, vous, le week-end, vous rentrez chez vous regardez du cyclocross.
Non.
C'est pas le week-end, c'est ça qui est.
On reçoit juste la notification à l'équipe comme quoi il est champion du monde. Et après, regardez.
Le résumé,
mais non, on regarde pas le cyclocross.
Je veux comprendre.
Mais par contre, le Paris-Roubaix, oui.
D'accord.
Enfin, le cyclisme, quoi, les classiques.
Vous êtes contre les SUV, mais pour le cyclocross.
Je suis sûr qu'ils sont pas, ils sont allés voter contre les SUV.
Bien sûr.
Mais non, moi, je réside pas à Paris même.
Val, je vous rappelle qu'il habite dans une ville où à peu près 75% des bagnoles sont des SUV, ouais. Donc.
Pas la mienne, je précise. Voilà. Mais non, on n'y a pas été.
Oui, il y a aussi des doudounes sans manches.
Il y en a beaucoup trop, mais c'est pour ça que je sais que c'est interdit de mettre des doudounes sans manches. Comme les pantacourts.
C'est la doudoune sans manches du 78 qui n'a rien à voir avec celle du 06.
Ouf. Quand tu mets dans le SUV, quand t'as monté un peu trop la clim, tu mets ta.
Voilà.
Exactement.
Exactement.
Tu peux le garder et t'as pas besoin de l'enlever quand tu montes dans ton SUV, quand tu redescends, tu l'enlèves.
D'accord. Bon, je fais un petit rappel hebdomadaire et puis on lance cette émission. Surtout, n'hésitez pas, donc ceux qui nous écoutent, si vous le pouvez, à financer notre association 11e art en allant sur notre lien HelloAsso, notre cagnotte HelloAsso qui est disponible évidemment sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et surtout, très important, n'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces, mettre des petites étoiles, etc. Même commenter, c'est hyper important. Vous commentez n'importe quoi, peu importe. C'est vraiment pour le référencement. Enfin, si vous voulez commenter des trucs pertinents, n'hésitez pas aussi. Mais voilà, commentaires, likes, étoiles, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Messieurs, qui a tué l'élégance ? Qui d'autre que Thibault Leplat pour commencer ce vaste sujet.
Oui, les créatures d'élégance. Alors, le sujet de l'élégance dans le football, enfin, de manière générale, quand on parle d'élégance dans le langage courant et peut-être aussi dans le langage courant du football, on parle d'abord d'esthétique. On dit d'un joueur élégant qu'il a dans son jeu une certaine attention à la forme. Je parlais dans une des chroniques que j'ai faites dans un de mes papiers sur RMC la semaine dernière. Moi, ma fascination quand j'étais gamin pour Bernard Lama, où j'avais un poster dans ma chambre, le poster Rose Mondial, où il avait une certaine manière de plonger, de faire des horizontales avec la jambe inférieure légèrement pliée. Et pendant des années, j'ai essayé de copier en fait cette jambe inférieure pliée. Je trouvais que plonger avec les deux jambes parallèles était assez laid. Et il fallait faire exactement comme la main, et que l'élégance, il y a cette idée d'une imitation d'un modèle. Comme Zidane a passé sa vie à essayer d'imiter Francescoli. Donc l'élégance, c'est certaine attention à la forme, quelque chose d'un peu qui peut sembler complètement futile, mais en même temps, qui reste. C'est le paradoxe de l'élégance, c'est que finalement, quelque chose qui semble assez superficiel, artificiel, est en réalité ce qui reste dans les souvenirs. Qu'est-ce qu'on se souvient de quoi se souvient-on de Zidane, de sa manière de contrôler le ballon? On ne se souvient pas d'un but en particulier aussi, mais c'est essentiellement une allure, un style. Il y a donc dans l'idée de l'élégance, de cette attention à la forme, on peut ajouter quelque chose qui est l'idée de l'imaginaire en action. L'élégance, c'est une forme de reconstruction rétrospective aussi. Le joueur élégant, on pense à Redondo, je pense à Riquelme. L'élégance, c'est d'abord penser à un joueur. C'est penser à une certaine définition de l'esthétique. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a dans ce premier paradigme de l'élégance, je crois, jusque dans les années 2000, encore l'idée que on va éventuellement s'inspirer d'une image, d'un geste. Mais il n'y a pas de flux continu, il n'y a pas d'image continue du joueur. Donc c'est par éclat. Donc le joueur sera d'autant plus, on s'en souviendra d'autant plus qu'il jouera moins. Platini, Maradona sont des joueurs qu'on voyait très peu en réalité. On les voyait de temps en temps. Voilà, on avait des photos. Dans l'histoire du football, et même Beckenbauer, des gens de notre âge, très peu personne ne l'a vu jouer. On peut revoir des matchs, on peut revoir effectivement des choses de plus en plus maintenant. Mais il restait quelque chose. Et ça faisait écho à un édito de Valdano, lui-même dans El País, là, il y a deux semaines. Je répondais en fait à cet édito-là, dans lequel il disait que ce qui semble artificiel, ce qui semble esthétique, est en fait beaucoup plus durable que le pragmatisme. Et que dans la mort de Beckenbauer, on avait cette idée que ce qui restait au-delà de son palmarès, c'est une certaine allure. Donc il y a dans cette vision un peu traditionnelle de l'élégance, une certaine esthétique de la trace. Hein, c'est celui qui va laisser une trace d'une certaine manière. La rupture, à mon sens, dans l'histoire du football, la rupture récente, c'est une rupture qui a lieu entre 2007, qui est à partir de 2007, où il y a une conjonction de deux facteurs. D'abord, sur le terrain, le duel Ronaldo-Messi, qui change la performance footballistique de nature. Il ne s'agit plus seulement de réaliser de beaux gestes ou d'impressionner par la forme, mais surtout d'impressionner par les résultats, par la compétition, le duel entre ces deux-là. Donc c'était des duels de pénalty marqués, des duels de dribbles réussis, des duels de buts, des duels de matchs, des duels de trophées. Et petit à petit, s'est installée cette norme-là d'une élégance devenue un peu surannée. On avait en même temps des joueurs comme Di Maria, on avait des joueurs, mais qui avaient beaucoup moins d'influence dans le goût général que Messi et Ronaldo. Les gamins ont envie de ressembler à Messi, hein, pas de ressembler à Di Maria, très peu. Et deuxième élément, donc d'un côté Messi et Ronaldo, et de l'autre côté, exactement parallèlement, qui permettait de mesurer l'avènement des statistiques et du big data. C'était à partir de 2008, l'arrivée des traders dans le football, l'arrivée des parieurs, l'idée qu'un match de football pouvait s'examiner d'un point de vue strictement quantitatif, allié avec l'esthétique de la performance, l'esthétique stakhanoviste de la performance comme peuvent être Ronaldo et Messi. Tout cela fait que l'élégance passe vraiment au second plan et n'est plus véritablement une valeur refuge, n'est plus la valeur jusqu'à présent assez universel en réalité dans le football. Tout le monde était d'accord pour considérer que Zidane était un des meilleurs joueurs du monde, bien qu'il avait des stats finalement faméliques à côté de celles de Messi ou de Ronaldo, hormis les cartons rouges, bien sûr, 14 cartons rouges en carrière. L'élégance a disparu au profit du joueur highlights, du joueur de l'éclat. Et on est rentré dans un nouveau paradigme qui est dans le paradigme de l'image. Et ça, c'est le troisième moment dans lequel, à mon avis, on se trouve. C'est-à-dire que première époque, je répète, époque sans image, époque d'éclat, élégance du souvenir, élégance de l'imaginaire. Deuxièmement, élégance de la statistique, prolifération de statistiques, disparition de l'élégance comme valeur qualitative, mais elle devient une valeur quantitative. Hein. Il y a presque comme l'élégance en mathématiques, hein, si je peux dire, la notion d'élégance en mathématiques existe. C'est la solution la plus économique. C'est une notion d'efficacité. L'élégance prend une signification d'efficacité mathématique, d'utilitarisme, une définition utilitariste de l'élégance. Et troisième moment, le paradigme de l'image, où cette fois-ci, l'élégance sort du champ de terrain. Comme on est abreuvé d'images, de résumés, de statistiques et de data, l'attention à la forme prend une autre forme, si je puis dire, où cette fois-ci elle va s'intéresser, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement du joueur de foot comme icône de mode, l'idée que l'élégance, qui était une valeur aristocratique, si je puis dire, devient une valeur mercantile. Et l'élégance, ça devient sa capacité à attirer des marques, sa capacité à attirer du monde sur des réseaux, et ce que imitent les gamins désormais, c'est pas véritablement un geste, très peu, c'est d'abord un mode de vie, un style de vie, c'est l'idée que, alors ça va être Benzema et ses vidéos cryptiques sur son style de vie, mais ça va être aussi Jules Koundé, qui est certainement beaucoup plus célèbre pour son Instagram que ses qualités de footballeur, comme des exemples innombrables du footballeur devenu icône de mode, qui, rappelons-le, c'est quelque chose de très nouveau. Zidane, encore en 98, était l'égérie de Leader Price. Hein. C'était un des rares qui faisait de la pub, et il était, au moment de la Coupe du Monde, il était en vitrine de tous les Leader Price. On imagine mal un footballeur aujourd'hui faire une pub Leader Price sans...
Djibril Cissé était égérie Lidl.
Ouais, mais c'était à cette époque-là aussi, un peu plus tard.
Non, là, cette année.
Ah, bah, alors,
mais c'est parce que Lidl.
C'est une preuve d'intelligence. Non,
mais parce que Lidl, il y a une espèce de.
Il y a une ligne de fast fashion.
L'image de marque qui est en train de se développer.
Ils essaient de monter en gamme, tu vois, précisément.
Ça va dans le sens de ce que tu dis, en fait.
Voilà, donc c'est. Donc l'idée que le footballeur devient une référence de la mode. Et les codes du footballeur, les codes de la performance du footballeur, de la plastique du footballeur, du style de vie du footballeur, même du maillot de football, t'en parlais tout à l'heure, Shérif. Devient une norme esthétique et devient un des codes d'une certaine conception de l'élégance. Donc pour résumer, on est parti d'une conception un peu à l'ancienne, si je puis dire, de l'élégance, c'est-à-dire d'une sorte d'attention à la forme, d'une éthique de la simplicité, d'une éthique de l'épure, dans lequel on voit, d'une épure à la fois dans le jeu et à la fois dans la manière dont on voyait les joueurs, on les voyait par éclat uniquement, par moment, à une élégance d'un point de vue plus mercantile qui se marchandise, c'est vraiment moche, mais qui une élégance qui devient un produit de consommation dans lequel le footballeur lui-même, dans son mode de vie, devient un référent, non plus par son jeu, mais par son mode de vie et l'image, et c'est ce qui est l'idée hein, dont on parle sans arrêt, l'image du footballeur devient centrale et se substitue même à cette idée, à cette éthique de la simplicité. J'espère que je suis clair, c'était peut-être un peu compliqué.
C'était très clair, je vais laisser Shérif enchaîner.
Oui, bon bah, je suis globalement d'accord avec tout ce qu'a dit Thibaut, compris sur l'évolution, si on peut appeler ça une évolution en plusieurs phases. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par moi-même. J'ai eu la chance, tout simplement, c'est que moi, Cruyff et Beckenbauer, c'est mon époque, je les ai vus jouer, et... ça sautait vraiment aux yeux qu'ils avaient quelque chose de plus, évidemment, quelque chose de princier, d'aristocratique, c'est incontestable, on le voyait tout de suite, tout le monde voulait le ressembler, y compris Beckenbauer, malgré le fait qu'il était allemand et qu'il était défenseur. Il y a tout de suite une chose qui se dégageait de ces deux joueurs-là, Déjà l'esthétisme, évidemment, l'esthétisme corporel, la gestuelle, le port altier, les épaules bien droites et tout ça, le geste de commandement aussi, l'index qui montre, qui replace un peu les troupes. Et ce qu'on avait tout de suite compris en les voyant, alors je suis d'accord avec toi Thibaut, c'était pas du tout leur palmarès, on savait qu'ils avaient déjà beaucoup gagné, que Cruyff avait marqué beaucoup de buts, que Beckenbauer était un ancien attaquant. C'est qu'on comprenait déjà que chez ces deux joueurs-là, et puis bon, d'autres aussi, hein, après il y a Isico, Socrates et tout, qui m'ont émerveillé, c'est qu'il y avait une compréhension supérieure du jeu que j'ai retrouvé ensuite chez Redondo, chez... Et là, on est capté par quelque chose, en effet, qui échappe à tous les... qui échappe à toutes les statistiques, les palmarès. C'est à ça que je veux ressembler. C'est ça que je veux imiter. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne ferai jamais les roulettes de Zidane, mais la façon dont il... la première touche, c'est, voilà, c'est une compréhension générale d'un esprit supérieur. Et moi, ce qui m'attirait chez ces joueurs-là, c'était donc dans l'imitation, il y avait cette idée d'élévation. On va s'élever exactement à ce niveau-là. Et je voudrais faire... Et là, je rejoins un peu ce que tu disais... Thibaut, toi, tu t'as basculé un peu dans l'économique. Moi, je vais rester un peu plus sur le culturel. C'est que moi j'ai connu la France d'avance, la France des années 60-70, où il y avait encore, quelque part, même si c'était un vernis dans les classes populaires, il y avait toujours cette idée d'élévation culturelle. On peut faire mieux. Les cours du soir pour progresser dans sa carrière, faire des mots croisés, regarder les jeux télévisés avec... tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça volait pas haut. Là, je parle vraiment de la culture populaire générale, mais il y avait toujours cette idée d'élévation. Tiens, De Gaulle, il parle un Français, Pompidou, il est agrégé, tu vois, on se disait, bon, on n'arrivera jamais à leur niveau. Cruyff et Beckenbauer, on n'arrivera jamais à leur niveau. Mais comme il y avait quelque chose de supérieur, il y avait aussi une part de mystère, parce que dans l'esthétisme, il y a toujours une part de mystère. Mais voilà, il y avait cette idée d'imitation et d'élévation. Et moi, je sais que ça m'a vachement inspiré. J'ai imité Beckenbauer, moi aussi. J'ai imité Cruyff. J'ai voulu leur ressembler. Et il se trouve que j'ai de la chance. C'est que moi, mon club de cœur, c'est l'Ajax. Et l'Ajax a produit, quand on parle d'élégance, Johan Cruyff, Marco van Basten et Dennis Bergkamp. Désolé, mais quand on a cité ces trois noms, on est forcément dans l'esthétisme porté... Enfin, vous êtes d'accord avec moi, ces trois joueurs-là, ils ont quelque chose de charismatique, de magnétique, appelez ça comme vous voulez. Donc, j'ai eu la chance, j'ai choisi le bon club. Et
moi, je trouvais que Kluivert était ultra, ultra élégant aussi à ses débuts. Je trouve qu'il était félin, il était élégant, il était un autre style.
Litmanen aussi, à sa façon, avait aussi cette élégance. Laudru, qui est aussi passé par l'Ajax. Parce que bon, les Hollandais, ils ont aussi le sens de l'esthétisme du football, pour le meilleur et pour le pire. Si vous voulez comprendre pourquoi les Hollandais sont nuls au tir au but, c'est parce que il y a aucune classe, il y a aucun enjeu dans les tirs au but.
C'est ce que disait Cruyff, mais après Van Gaal ne disait pas ça. Mais...
C'est la vulgarité, les tirs au but, vous comprenez. Justement, on reste dans l'esthétisme, on gagne avec la beauté du geste, ceci, cela, en marquant des beaux buts et tout ça. Et ça a ancré en moi l'idée d'un certain esthétisme, de la beauté visuelle, que j'ai reporté d'ailleurs chez les tennismen. J'ai toujours été fasciné par notamment dans les années 80, les tennismen gauchers, j'ai pas d'explication, c'était McEnroe, Connors et Lecomte, qui pour moi c'était... Et après j'ai compris que mes sportifs préférés, ce seraient des sportifs qui avaient une certaine félinité. Et c'est pour ça que j'aime bien Maradona et Pelé, mais pas tant que ça, parce qu'en fait ils sont petits et rablés. Et le Zidane que j'ai préféré, paradoxalement, c'est pas le Zidane de la Juve, de Bordeaux ou l'équipe de France, c'est le Zidane de 2006, quand il ressemble à une ballerine, quand il est sec, quand il est gracieux, il est gracile. C'est ce Zidane-là. Et pareil pour le cinéma.
Le Zidane de Cannes aussi est très très élégant. Le Zidane.
Ah oui, ça, voilà, c'est le début et la fin. Ouais. C'est l'innocence, le corps qui se libère au début, puis à la fin. Le chant du cygne, quoi, au sens au propre et au figuré, parce que le cygne, c'est très majestueux aussi. Et c'est pareil pour le cinéma. je peux apprécier ce qu'on appelle le charisme des grands acteurs américains, et c'est vrai que John Wayne, Redford et tout ça, pas de problème, les mecs, ils ont. Mais je préfère le magnétisme d'Alain Delon, parce que je le trouve plus racé, plus, c'est quelque chose de subtil. Mais c'est parce que c'est Cruyff et Beckenbauer qui m'ont introduit, qui m'ont initié à cet esthétisme-là. Donc voilà, j'ai parlé de moi, et parce que bon. Et par contre, qu'est-ce qui a tué l'élégance? Moi, je pense que, en fait, elle n'a pas entièrement disparu. C'est comme la poésie, c'est, elle jaillit de temps en temps, par moments, par des beaux gestes. Et les beaux gestes, on sait encore les apprécier. Et j'ai trouvé, par exemple, absolument merveilleux de voir que c'est à la toute fin qu'on a découvert le vrai Benzema. Parce que Benzema, on s'est trompé sur lui. On l'a toujours envisagé comme un numéro 9, un buteur, un attaquant. Sauf que non, Benzema, c'était quelque chose de plus subtil. Et il y a eu ces deux dernières saisons, mais absolument extraordinaires, où là, on a vu l'artiste. Là où on a vu l'élégance.
Avec Zidane, d'ailleurs.
Hein ?
Avec Zidane, d'ailleurs.
Avec Zidane, comme par hasard. Est-ce que c'est un hasard ? Moi, je ne crois pas. Mais c'est là qu'on a vu qui était Benzema. C'est pas un numéro 9, c'est pas un attaquant, c'est pas un attaquant de soutien, c'est pas un deuxième attaquant. Non, non. Benzema, c'est Benzema. Avec sa poésie, avec son style. Et c'est un beau miracle pour moi qu'on ait vraiment découvert l'essence même de ce joueur-là. Et que, en fait, il est demeuré inclassable. Et je crois que c'est sa plus belle victoire, c'est une victoire esthétique, en fait. Les titres, il les a eus, hein, y a pas de problème. Mais les prises de balles de Benzema, les petits échanges, mais c'est, voilà, on a compris qui était ce joueur. Alors qu'on... pendant 15 ans, on l'a envisagé comme un attaquant. Reste la poésie. Et la poésie, ben pour moi, aujourd'hui, ben c'est un... comment j'ai oublié son prénom. C'est Wirtz, le petit numéro 10 de Leverkusen.
Leverkusen, ouais.
Oh, Florian Wirtz.
Tout le monde est amoureux de Wirtz. C'est le mec qui ressemble à rien. Il est tout petit. Il est numéro 10. Des fois, il est bon. Des fois, il n'est pas bon. Hein. Faut pas se mentir. Est-ce que ça va être un futur grand ? On n'en sait rien, on n'en a rien à foutre. Il illumine Leverkusen, mais ça n'intéresse personne. Leverkusen, ils sont peut-être champions, mais on les oubliera de toute façon, parce qu'on n'oubliera pas Wirtz. Et qui est sur... Là, je te rejoins, Thibaut. Qui est son entraîneur ? Xabi Alonso.
On parle de la Real Sociedad tout à l'heure, j'ai repéré un truc justement où il parle de ça. C'est quoi la notion de l'élégance dans l'éducation de la Real Sociedad ? C'est très particulier.
Tu vois ce que je veux dire ?
On l'évoquera tout à l'heure. Chérie, je vais te couper parce que ça fait déjà 7-8 minutes. Je vais donner la parole à David et puis on a...
Et je finis. Alors juste une petite idée. Et n'oubliez pas aussi que l'élégance, elle s'est déplacée sur le banc de touche. Parce que l'élégance, maintenant, elle se partage entre les joueurs et les entraîneurs. Et aujourd'hui, les entraîneurs, on ne va pas tous les citer. N'oubliez pas. Enfin, moi, d'après ce que je vois, c'est... ils sont mieux habillés. Voilà. À leur façon, de par leurs idées, de par...
Déjà, ils sont là, parce que pendant longtemps, on ne les voyait pas, les entraîneurs.
Voilà, c'est ça. Ils incarnent aussi, l'élégance maintenant se partage un peu entre les joueurs et les entraîneurs. Et Xabi Alonso, qui est un mec très classe.
Voilà, qui est l'incarnation de la classe même. Voilà. Merci beaucoup, Shérif et David.
Pardon d'avoir dépassé.
Non, pas de souci.
Non, mais il n'y a pas de souci. En plus, moi, je vais me servir de l'appel de Shérif pour commencer ma partie. C'est-à-dire que, oui, numéro 10... Moi, je suis d'accord pour dire que la classe, l'élégance, elle n'a pas forcément disparu. Elle a déménagé. Géographiquement, sur le terrain, elle a déménagé. On n'a plus d'équipe. Avant, moi, quand j'ai grandi, c'est un peu autobiographique, en fait. Thibaut a parlé de Bernard Lama. Shérif a parlé des années 60, 70, 80. Moi, j'ai grandi, je suis un enfant des années 90, je suis né en 82. Et quand je commençais à collectionner les images Panini, chaque équipe de Ligue 1 ou de D1, comme on disait à l'époque, avait son numéro 10. Moi, j'ai grandi avec Frédéric Mérieux, Thierry Moreau, Stéphane de Deban, Corentin Martins, Stéphane Ziani, Johan Mikou, Michel Rio, Valdo, Vicage Dorasso, Moussa Saïb. C'est-à-dire que chaque équipe, que ce soit Martigues, Le Havre, Toulouse, Lagia, avait un, voire deux numéros 10. Giroud, par exemple, jouait avec une sentinelle, deux, on appellerait ça double pivot, mais deux numéros 10 et deux ailiers. Donc, chaque équipe avait au moins un numéro 10. Bordeaux a été champion en 1999, en jouant avec deux
numéros 10 excentrés.
Avec deux numéros 10 sur le banc, avec Benarbia,
Micro.
Exactement. David, parle bien devant ton micro, s'il te plaît, David. Parle bien devant ton micro.
Je parle hyper bien devant mon micro.
Je ne bouge pas trop la tête, parce que sur le côté, ça pop. Je continue.
Et donc, en fait, avec Benarbia et Mikou, et ensuite, Eric Bopp a continué pendant 3-4 ans à cumuler les numéros 10. Donc, il y a eu Ziani, il y a eu Corentin Martins, il y a eu Vicage Dorasso, il y a eu Savio après, en fait, qui est également venu. Il y a eu Albert Celades, qui est aussi venu, qui a joué milieu offensif. Donc, désormais, ce poste, s'il a disparu, la créativité, l'élégance, c'est aussi déporté. On a toujours, tu as cité Florian Wirtz, Valentin, t'as signé Martin Odegaard, il y a du Enzo Lefebvre, il y a James Maddison, il y a Tedji Savagnier qui a joué absolument à tous les postes du milieu, il y a Eberechi Eze que je conseille de voir jouer à Crystal Palace, qui est un joueur absolument fabuleux, bien évidemment Jamal Musiala, il y a Pedri, il y a Bellingham, il y a Griezmann qui maintenant joue dans un rôle un peu plus hybride. Donc dire que cette élégance qui est typique des numéros 10, même si Beckenbauer était un libéraux à l'ancienne, je pense qu'elle s'est plus déplacée un peu plus bas sur le terrain, voire même sur les côtés, parce que maintenant, il y a une telle complexité des circuits de jeu que le numéro 10, le joueur élégant, n'est plus forcément le dépositaire du jeu. On voit énormément de systèmes de jeu qui mettent en valeur justement l'élégance et les aptitudes des latéraux. Quand je vois les transversales, les obliques, les ogives de Trent Alexander-Arnold, je suis obligé de me dire que l'élégance, elle s'est peut-être aussi en fait déportée sur les côtés. Idem avec les défenseurs centraux. Les Anglais adorent, raffolent de ce qu'on appelle les ball-playing defenders. Ça peut être du Van Dijk, ça peut être du Saliba, du Rafael Diaz, ça peut être du Stones, qu'on a vu où c'est l'ajustement tactique de Stones en le faisant passer au milieu en phase offensive qui a complètement transformé une équipe de City qui était à la rue l'année dernière, qui l'a emmené jusqu'au titre de Ligue des Champions. Donc, je pourrais citer Alaba qui a été recentré, du Bastoni, mais c'est vrai que cette élégance, l'élégance telle qu'on l'a connue, elle a disparu, mais elle s'est adaptée. Mais je dois quand même avouer que si l'élégance est moins présente dans le foot actuel qu'avant, c'est essentiellement à cause du chamboulement de la notion de temps. Nous sommes dans un monde, dans un environnement, dans un univers footballistique où plus personne n'a le temps, ne prend le temps. L'élégance, comme Thibaut le suggérait, est considérée comme superflue, c'est-à-dire que c'est une perte de temps, c'est moins de garantie de résultats, c'est quelque chose qui est considéré comme suranné. Donc, au niveau du club, quand chaque déviation dans le plan de trésorerie, dans le business plan, se compte en dizaines, voire en plusieurs dizaines de millions d'euros, quand l'élégance peut être vue comme quelque chose de négatif qui entraîne une catastrophe industrielle, parce que forcément, l'élégance, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en valeur, on va préférer bien évidemment la statistique. C'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'élégance. Idem au niveau du coach. La durée de vie d'un entraîneur est de plus en plus limitée. Il y a 20% des entraîneurs au monde qui sont en place depuis plus de 2 ans. 20%, un entraîneur sur 5 est là depuis 2 saisons. Donc forcément, pour s'appuyer sur ces joueurs élégants qui sont bien plus complexes à appréhender, bien plus difficiles à mettre en valeur, peut-être parfois trop cérébraux justement pour être utilisables immédiatement. On a vu par exemple avec Riquelme au Barça qui a été mis de côté. On a vu avec Odegaard qui au Real avait, alors c'était certes très jeune, mais a été mis de côté car pas forcément prêt tout de suite. On l'a vu avec Mesut Özil qui au gré de ses pérégrinations, des changements d'entraîneur, des changements de système de jeu, a parfois été sacrifié. Il a d'ailleurs gagné la Coupe du Monde en étant mis sur un côté. Il y a énormément de joueurs. Bernardo Silva, qui n'a pas forcément percé la formation à Benfica, qui était un peu un pari, ce qu'on appelle left field de Monaco, mais qui a mis du temps à percer parce qu'il a justement ce profil un peu hybride. Il a du mal à jouer en sélection, Bernardo Silva, avec des entraîneurs peut-être moins aptes, peut-être moins sensibles qu'un Pep Guardiola. Donc, ces entraîneurs qui n'ont plus du tout de durée de vie. D'ailleurs, je vais vous donner la durée de vie moyenne d'entraîneur. C'est 385 jours en Ligue 1, donc à peine plus d'un an. 384 en Serie A et un peu plus. C'est 628 jours en Bundesliga et 722 en Première Ligue. Et dans les basses divisions anglaises, il y a plus de 60% des managers qui n'auront jamais de seconde chance. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un poste, qu'ils se font virer, il n'y a pas de deuxième chance. C'est-à-dire qu'à moins d'être un grand nom ou d'avoir fait une bonne première impression, tu n'as pas de deuxième chance dans le football professionnel anglais. Il y a quand même 92 équipes dans le football professionnel anglais. Donc, c'est vous dire si la place, l'incertitude créée par l'élégance, la place au talent est forcément fragilisée. Et idem au niveau du joueur. C'est-à-dire qu'avec l'avènement du pressing, contre-pressing, gegenpressing, la règne des 6 secondes, et quand on regarde les statistiques qui sont mises en avant, notamment pour mettre en valeur le travail défensif des joueurs offensifs, on en vient à regretter le fait qu'il y ait de moins en moins de place à l'élégance. C'est Eden Hazard qui en parlait dans son interview, qui disait, mais attends, vous vous rendez pas compte, les joueurs offensifs de maintenant, on se demande, la première chose qu'on leur reproche, c'est, ah oui, mais d'accord, mais il ne sait pas défendre. Ou on regarde ses statistiques, c'est ok, d'accord, mais quelle est la durée de récupération quand il a perdu le ballon? C'est quand même quelque chose de relativement compliqué, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant. Et après, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Thibaut en première partie. Il y a quelque chose qui me dérange, moi, c'est la perte du jugement oculaire. C'est-à-dire que plus personne ne fait confiance à son œil pour juger d'un joueur. Si notre jugement n'est pas appuyé par la statistique, on a peur, et moi c'est quelque chose que parfois je ressens, on a peur d'avoir tort. C'est-à-dire qu'on a peur de s'entendre dire « Ah mais t'es bien gentil, mais ton joueur, attends, il facture combien de stats, combien de passes décisives, combien de d'XG il a créé, combien de buts ?» C'est qu'on ne fait plus du tout confiance à l'œil. Et moi j'ai lu un super livre qui s'appelle The Nowhere Man. C'est un livre anglais sur le métier de scout de terrain et la disparition du scout de terrain. Et ces Nowhere Men, donc ces hommes de nulle part, disaient qu'on fait de moins en moins confiance à l'œil et de plus en plus à la statistique. C'est-à-dire que l'émotion, l'œil, l'appréhension du joueur dans son environnement est complètement passée au second plan. Et je trouve que c'est dommage que l'œil ne précède pas l'utilisation de la statistique. La statistique devrait venir valider la première impression. Surtout en plus, c'est un peu le syndrome flash résultat, multi-écran, où forcément on veut être au courant de tout et on veut... Toute ta vie doit être quantifiée, appuyée et validée par des chiffres. Alors que très franchement, parfois, c'est tellement bien de se laisser guider par ses émotions, par son œil, parce que le football, c'est avant tout un jeu et un travail et une appréciation par l'œil. Ça se voit, le football, ça se sent bien évidemment, mais ça se voit. Et je trouve ça dommage que cet aspect oculaire du football passe au deuxième plan. Et c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister.
Et sur ce dernier point, c'est d'ailleurs ce qui fait la réussite d'un club comme Bologne, avec son directeur sportif Sartori, qui était l'ancien directeur sportif de l'Atalanta et qui a construit tous ses effectifs.
Tout à fait.
Avec une certaine réussite,
ouais.
Et qui est vraiment un directeur sportif à l'ancienne, qui fait encore ses déplacements avec son carnet, qui voyage, qui fait 50 voyages par semaine pour aller voir des joueurs du
fin fond. Vraiment, c'est quelque chose.
Et on voit que ça fonctionne.
Mais moi, en fait, chef, moi,
avec tous les inconnus.
Je me déteste. De temps en temps, je me déteste. Je me dis, mais attends, il est vraiment bon lui, parce que je suis allé voir ses stats et ça sort pas du tout. Et là, je me dis, non mais David, arrête, stop.
On va rediscuter de ça évidemment dans cette deuxième partie. Je vais laisser Flo faire sa petite revue de presse hebdomadaire.
Allez, salut mes petits coudras, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse hebdomadaire. Bon, on voit bien quand même qu'à l'approche des échéances printanières, le besoin de souffler se fait sentir. David, qui laisse sa place la semaine dernière à Olivier Jarros, se faisant porter pâle pour filer à l'allemande et se régaler d'un buffet Asian Bites typiquement bavarois, en costard et sans sneakers, avant de rejoindre nos amis de l'after. Et cette semaine, c'est JB qui s'absente, laissant la place non pas à un petit nouveau, mais aux dreads les plus célèbres de France, juste devant Michael Tacalfred et Swazig de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Shérif Guémour, bien évidemment, qui s'installe à nouveau autour de la table du 11e art. Shérif, c'est la tout élégance foot made in France, historique et nostalgique, diversité et banlieue, et acteur phare du lancement d'une émission historique, et que tout le monde s'arrache désormais de SoFoot à Eurosport en passant par RMC. Libre comme l'air, mais véritable prise médiatique et philosophique pour le Comex. Bref, Shérif Guémour, c'est un peu notre Rachida Dati à nous, le bling-bling en moins, la dégaine en plus. Alors messieurs, comme ça, on se demande qui a tué l'élégance. Thibaut, l'expert en salsa, homme de lettres, mais philosophe en doudoune sans manche. David, qui n'ose assumer devant Thibaut et JB son goût pour le rap français, me demandant discrètement par message à la suite d'une recommandation vivement critiquée, quels artistes devrait-il écouter. Bon, C'est vrai que ces derniers temps, l'élégance dans le foot semble à peu près dans le même état que la prostate de Charles III depuis quelques jours. Mais de là à se demander qui l'a tué, j'avoue avoir un doute sur la pertinence de la question et le besoin de trouver un coupable. Mais ça, c'était avant. Avant l'élimination surprise du Maroc à la CAN la semaine dernière face à l'Afrique du Sud, et cette apparition terrible qui vint à la télé, d'Achraf Hakimi, pourtant latéral plutôt offensif et soyeux, bouc au visage façon Sabri dans H. Achraf, je te préviens, il est interdit de revenir à Paris avec cette pilosité si c'est pas pour jouer dans une série. En tout cas, une chose est sûre, cette CAN n'a pas fini de nous réserver des surprises. Une véritable ivresse pour des sélections pas forcément attendues à ce niveau, mais aussi un véritable casse-tête pour les journalistes étrangers présents en Côte d'Ivoire, comme l'explique Hervé Penaud dans les colonnes de l'équipe. Des logements coûteux et pas tout le temps pris en charge par certains médias africains, poussant certains journalistes nigérians notamment à dormir dans la rue ou à sauter les repas. Des transports chaotiques malgré la mise à disposition de cars spécialement affrétés par l'État ivoirien pour les journalistes, mais un dénominateur commun à l'ensemble des suiveurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, la passion de transmettre les émotions dans leur propre pays. La passion, c'est d'ailleurs probablement tout ce qu'il reste à Jürgen Klopp, à court d'énergie et qui s'éloignera un temps des terrains au terme de sa 9e et ultime saison sur le banc des Reds. Un homme ordinaire en quête d'une vie normale et qui ne présentait aucune des deux caractéristiques parmi les plus connues de ses confrères entraîneurs, l'égocentrisme et la paranoïa. Un départ vécu non pas vécu comme une tragédie mais comme un aboutissement, tant ce qu'il aura accompli pour son club, sa ville et son pays d'adoption aura été remarquable depuis sa prise en main d'un Liverpool moribond en 2015 pour parvenir à son terme, comme l'écrit si bien le toujours excellent Philippe Auclair pour le site d'Eurosport, donnant au passage à ses joueurs et à ses fans une motivation supplémentaire pour finir sa dernière saison sur les bords de la Mersey, le tout en beauté. Lui aussi peut se targuer d'avoir redoré le blason d'un club populaire. Francaise, après un début de saison compliqué, est parvenu à redresser son RC Lens, le tout en prenant de l'altitude. Profitant de son exclusion de 3 matchs, le coach Champeur a en effet plus qu'apprécié cette prise de hauteur face au manager de rugby, bénéficiant au passage d'une bien meilleure vue pour analyser le jeu, tout en s'octroyant une distance émotionnelle plus importante, comme il le dit. Et allant jusqu'à réfléchir de revenir plus régulièrement sur son perchoir, à minima sur les premières périodes, avant éventuellement de retourner sur son banc pour les secondes, où la réactivité reste primordiale à ses yeux. Une prise de distance qui lui permet de vivre le match avec la même vigueur qu'un Gabriel Attal sur un ballot de paille, tout en prenant donc davantage de recul, mais aussi en pouvant fréquemment revisionner les images sur son ordinateur et celui de son adjoint à côté de lui, et ainsi ajuster ses conseils à son adjoint principal en bord de terrain Louis, et corriger ses ouailles, comme l'explique Jérémy Baron pour le site de SoFoot. Et au bout, un bilan comptable positif avec 2 victoires en 3 matchs et 1 seule défaite contre le Paris Saint-Germain. Mais là-haut dans ses gradins, Francaise aura peut-être aussi goûté un peu à la haine ordinaire. Celle de l'enfer qui commence par un bruit, comme au Groupama Stadium dimanche soir lors d'un Olympico, pourtant bien fade et dans bien d'autres stades chaque week-end. Où les injures sont fréquentes, également largement audibles derrière nos postes de télévision. Sans personne bien évidemment dans les régies d'Amazon ou Canal+, ni dans les bureaux de la LFP, pour nous épanier cette haine ordinaire trop souvent ramenée au folklore dans un déni de réalité. Le tout loin du rôle éducatif non accessoire et non fin de notre sport préféré. Un rôle sans lequel on pourrait se demander à juste titre à quoi servirait le football, les stades et les communautés qu'il crée. À quoi bon s'inventer ce genre de transcendance si elles sont systématiquement souillées par des sacripants, comme tu l'écris d'ailleurs Thibaut dans ton édito hebdomadaire pour le site de la revue de l'After. Alors l'élégance, ce n'est probablement pas ça, mais plutôt celle d'un esthète amoureux du jeu comme Eden Hazard, qui dans une longue et rare interview pour l'équipe revient sur sa carrière et les joueurs qui l'ont fait vibrer. De Ronaldinho à Pastore en passant par Verratti, Zidane ou Riquelme. Des joueurs romantiques au profil de plus en plus rare, faute de temps, mais qui au-delà de leur palmarès auront marqué bien des générations d'enfants. Au fond, c'est probablement aussi un peu ça l'élégance.
Bravo. Merci beaucoup Flo. Toujours cette excellente revue de presse. Messieurs, on va basculer, on a déjà bien avancé en termes de temps dans cette émission, donc je vais rapidement résumer ce que vous avez dit, puis on va pouvoir basculer dans notre conversation. Thibaut, toi tu commences, je rappelle le sujet, donc qui a tué l'élégance. Thibaut, tu commences en comparant évidemment l'élégance à l'esthétisme, enfin quand on parle d'élégance, on parle d'esthétisme selon toi. Et dans l'élégance, il y a une idée d'imitation d'un modèle, comme Zidane avec Francescoli. Il y a aussi l'idée de l'imaginaire. Toi tu distingues 3 périodes. La première, jusque dans les années 2000, où justement il n'y avait pas d'image, la question de l'élégance était ponctuelle par éclat. Tu parles d'esthétisme de la trace, tu dis que l'élégance à ce moment-là est qualitative. Puis à partir de 2007, tu distingues 2 raisons à ça, à ce premier changement. Évidemment, le duel Messi-Ronaldo qui renforce l'idée de compétition. L'importance, le geste devient plus important que l'élégance. Et aussi l'avènement du big data qui fait que l'élégance passe au second plan et devient à ce moment-là quantitative. Et ensuite, une troisième phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui est le paradigme de l'image. L'élégance sort du terrain, elle devient une valeur mercantile. Les jeunes s'inspirent désormais du style de vie, du mode de vie des footballeurs qui devient central au détriment du jeu. Shérif, toi, tu replonges dans tes années, dans les années que tu connais le mieux, les années de Cruyff et Beckenbauer. Tu dis que ces joueurs-là avaient quelque chose en plus, quelque chose de princé, notamment et l'esthétisme du corps. On comprenait déjà à cette époque qu'ils avaient une compréhension supérieure du jeu. Et tu dis que dans l'imitation, il y a une idée d'élévation, et tu fais une comparaison avec la France d'avant, où il y avait toujours évidemment cette idée d'élévation culturelle, et c'est pour ça que des mecs comme Cruyff et Beckenbauer ont inspiré toute une génération. Et tu donnes ton avis personnel en disant que les sportifs préfèrent ont justement cette félinité, et tu fais aussi une comparaison avec le cinéma. Et à la question « qu'est-ce qui a tué l'élégance ?», tu estimes qu'elle n'est pas disparue, qu'elle existe encore par éclat. Tu donnes les exemples de Benzema et de Florian Wirtz, que l'élégance s'est déplacée, et tu rajoutes en plus de ça que l'élégance s'est déplacée sur les bancs de touche, où les entraîneurs sont bien mieux habillés. Et David, tu termines cette première partie en disant que l'élégance a déménagé, qu'avant chaque équipe avait un numéro 10, que l'élégance s'est désormais déplacée soit derrière, soit vers les ailes. Tu donnes l'exemple des latéraux ou des ball-playing defenders. Et si l'élégance est moins présente aujourd'hui, tu donnes deux raisons à cela. D'abord, le chamboulement de la notion de temps, que ce soit au niveau des clubs, des joueurs et des entraîneurs. Et dans un second temps, la perte du jugement oculaire, selon toi, fixe beaucoup trop aujourd'hui sur la stat, on a peur d'avoir tort avec son œil, et aujourd'hui tu estimes que la stat devrait valider la perception de l'œil et non l'inverse. Thibaut ?
Ouais, alors pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'on remarque cette première discussion, c'est que ce qui est acquis d'abord, c'est que l'élégance n'est pas une valeur quantitative. C'est clairement une affaire de forme, mais une forme de superficialité par profondeur, si je puis dire, pour parler comme Nietzsche. C'est-à-dire de dire que la forme, c'est le fond. Que la forme, l'élégance, quand elle est considérée comme ça, ça peut être assimilée à la notion de style. Je rappelle la phrase de Proust, le style n'est pas une affaire de technique, mais une affaire de vision. Il s'agit bien de voir. C'est ce que tu dis, David. Et l'élégance n'existe pas si elle n'est pas décelée, si elle n'est pas vue. Et c'est un peu le paradoxe de l'élégance, c'est-à-dire qu'elle est souvent invisible à celui qui n'aime pas. Celui qui ne prêtera pas attention ne verra pas l'élégance. Tu parlais d'Enzo Lefebvre, par exemple, bon, je ne parle pas parce que je connais bien. Enzo Lefebvre, il disparaît de tous les highlights de Ligue 1, on ne le verra nulle part. Et pourtant, tu vas le voir sur un contrôle, tu vas le voir sur une orientation du corps, tu vas le voir sur une certaine situation de jeu. L'élégance, c'est quelque chose qui est invisible en réalité, dans le cadre de la performance quantitative. C'est absolument indétectable, en réalité, l'élégance, en dehors d'un certain œil, si je puis dire, un œil exercé.
Et favorable, qui a envie de le voir, en fait.
Oui, voilà, et c'est une affaire de désir, en fait. C'est une affaire de désir, désir la voir, et ensuite désir de la donner, ce que j'ai écrit dans mon bouquin sur le beau jeu. C'est l'idée qu'il y a un échange, en fait. Et dans la notion d'élégance, donc, qu'il faut préciser, parce qu'on tourne autour, on a encore du mal à le définir, il y a une étymologie qui est intéressante. L'élégance, ça vient d'elegans en latin, qui veut dire celui qui sait choisir. L'élégance, c'est une manière de choisir, c'est-à-dire c'est une manière de choisir ce geste plutôt qu'un autre, et donc une manière de renoncer. Il y a donc, c'est une sorte d'éthique, et quand tu parles d'éthique de l'élévation, Shérif, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'il y a une élévation morale à travers le renoncement. Zidane renonce à être un joueur qu'il n'est pas. Un joueur rapide, il renonce à être quelqu'un d'autre. Il renonce à être Francescoli, en quelque sorte. Il était beaucoup moins rapide que Francescoli. Beaucoup moins explosif. Mais c'est au moment où il renonce à être Francescoli qu'il devient esthétiquement quelque chose. Tu parles de Benzema, c'est exactement ça aussi. D'ailleurs, s'il y arrive au moment où Benzema est sur le banc, il renonce à être l'attaquant qu'attendait le Real, en fait, le nouveau Ronaldo. Il invente une nouvelle manière d'être un œuf au Real que lui-même invente en le faisant. Hein,
On se souvient de la phrase de Mourinho sur le chat, qui est terrible.
Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que cette ce moment qui finalement est assez évanescent dans la carrière de Benzema. Ça correspond à 2 saisons, 3 saisons maximum sur une carrière qui a duré quasiment 20 ans. C'est très peu, en fait. Et pourtant, c'est l'essence même. Et c'est ce qui est très... très... Tu parles du Zidane de 2006.
Il était comme ça au début aussi, Benzema.
Oui, mais...
Ce que disait
aussi, oui, mais ça, ça reste...
Zidane aussi, c'est vrai, avec Benzema.
Il était comme ça, mais il n'avait pas cette personnalité qu'il a à partir de là. Il était encore en construction, c'était un jeune joueur, on voyait des choses, mais il était encore en développement. Là, on a dans la fin du Benzema, un peu comme dans le Zidane de 2006, une sorte d'aboutissement. Une sorte de... On arrive enfin au sens, au joueur véritable. Mais au moment où il s'arrête, c'est ça qui est très bizarre. Et quand on parle d'élégance, parce qu'on sous-entend par élégance, pas des techniques de certaines techniques, on sous-entend en fait un style de joueur, c'est des joueurs, une allure, quelque chose qui est resté. Quand tu parles de valeur aristocratique, c'est exactement cela, et c'est pour là-dessus on peut faire un comparatif avec la société. C'était l'idée d'une valeur aristocratique, c'est-à-dire la société aristocratique, c'est la société de la hiérarchie. C'est la société conservatrice qui considère donc que chacun a sa place, mais que l'élévation est pour tout le monde, tout en restant à sa place, si je peux dire. Et que, par exemple, tu parles des classes populaires, enfin, c'est maintenant qu'on dit les classes populaires, mais à l'époque on disait le prolétariat, qui étudiait Aragon, qui étudiait les grands poètes, qui dans les médiathèques, on a maintenant les bibliothèques municipales, tout ça vient.
T'as vu cette vidéo, Thibaut, tu te souviens, où ils vont dans une usine, en fait, de pas demander au contrôleur.
Vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr, elle est tournée. Hein. Les types lisent Sagan, etc.
Exactement.
Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose Enfin, c'est un peu anachronique, dans le sens où, effectivement, si tu n'as pas d'autre choix que de lire des romans, tu vas lire des romans. Maintenant, les personnes, tu leur mets Hanouna en 1955, tu vas regarder Hanouna aussi, tu vois.
Oui, oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'idée, malgré tout, que, effectivement, la culture est quelque chose à laquelle il faut tendre, vers lequel il faut tendre. Il y a une certaine idée hiérarchique de la culture, aristocratique de la culture, c'est-à-dire Aristeil en grec, c'est les meilleurs, c'est le gouvernement des meilleurs. C'est l'idée qu'il y a nos chefs, si je puis dire, nos De Gaulle, nos Pompidou, nos patrons. La figure du patron est très importante, est une sorte d'avant-garde légitime. Dans la société dans laquelle on vit, qui est une société horizontale, qui n'est plus du tout une société verticale comme elle était, effectivement, les valeurs aristocratiques de ce type-là sont en perdition complète. Elles sont anachroniques, elles sont dépassées, parce que ce qui compte maintenant, c'est l'égalité au maximum, que chacun crée ses propres valeurs, son propre style de vie, indépendamment d'un certain nombre de valeurs prédéfinies. Et donc, pour revenir juste à l'élégance, qui a tué l'élégance, moi, je pense que ce qui tue l'élégance, c'est le surplus d'image. Je crois vraiment qu'il y a dans l'élégance l'idée d'une imitation. Comme on imitait, parce que l'admiration suscite l'imitation et l'élégance a besoin de l'admiration. Et donc il y a cette idée de vouloir intérioriser un certain nombre de mouvements, mais comme les grands peintres ont essayé d'imiter les autres, comme Mozart a imité Haydn, comme Zidane a essayé d'imiter Francescoli, comme Bach a essayé d'imiter, comment il s'appelle, les 4 saisons, Vivaldi. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission vers l'élévation. Et je pense que c'est ça l'élégance, c'est la transmission vers l'élévation.
Chérif, tu veux rebondir ?
Non, mais je suis entièrement d'accord. Et comment dire ? Juste pour deux petites... c'est plus des précisions en fait par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, bon, je suis pas entièrement non plus, dans le foot nostalgie ou quoi que ce soit, ou dans la société d'avant. Je raconte simplement comment je suis venu, moi, à appréhender la forme d'élégance, c'est-à-dire dans ce qui m'a construit. Mais comme je le disais aussi, cette élégance, je la retrouve aujourd'hui, que ce soit avec des Benzema, des Wirtz. Donc voilà, cette idée aussi d'élévation par la culture, moi je constate qu'elle a disparu, c'est tout. Je citais De Gaulle et Pompidou, mais on peut mettre aussi Mitterrand. Ce qui a fait la pérennité de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qui reste...
Attention, chérie.
Ici, on dit Mitterrand, c'est très important.
Ah, très bien. Et voilà, c'était sa culture. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui aux hommes politiques aujourd'hui ? C'est qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas de... C'est aussi ça qu'on leur reproche. On est attaché à cette forme d'intelligence, à cette forme d'élévation, de noblesse. Parce qu'il y a aristocratie et noblesse. On peut être d'un milieu populaire et de tendre vers quelque chose d'aristocratique, mais quand même avec quelque chose de à dimension humaine. C'est pour ça, la noblesse, c'est aussi ça.
Alors, il y a un truc quand même, il faut rappeler que l'aristocratie, les valeurs de l'aristocratie, ça s'appelle le fair play en départ.
Oui.
Le fair play, c'est l'émanation même les premières créations, la naissance du football vient de cette idée-là, de cet univers d'aristocratique.
Tout à fait.
Des public schools anglaises, du fair play. Et d'ailleurs, je voulais dire sur la Real Sociedad, très intéressant, je suis en train de lire, on va en parler tout à l'heure, un livre génial de Gruchaga, qui s'appelle Subcampeón, qui est un ancien arrière central de la Real Sociedad, qui est devenu comique. C'est très marrant. Et il raconte, en fait, c'est un mec qui a fait une dépression. Il raconte notamment son arrivée à la Real Sociedad. Et il explique que la Real, c'est le club un peu aristocratique du Pays Basque, enfin, d'une partie du Pays Basque. Et que donc, quand tu arrives à la Real Sociedad, il dit le premier truc qu'on nous dit dans les vestiaires, c'est l'attitude, le comportement qu'on doit avoir, et notamment pas de cheveux longs, pas de tatouage, jamais se plaindre sur un terrain. Et c'est exactement Xabi Alonso. C'est exactement la description de Xabi Alonso. Tu te plains pas. Pourquoi ? Parce que comme tu es réputé comme le club riche du coin, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et quand tu vas jouer contre les bleds autour, tous les mecs autour, tu peux pas. Tu n'es pas dans une position de te plaindre, même si tu as raison. Et que l'éthique aristocratique, elle est là aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée d'être meilleur que les autres. C'est justement parce que tu es le meilleur que tu te retiens. Et il est là, le fair play, c'est ça. C'est parce que tu es le meilleur que tu le retiens. Dans l'hymne du Real Madrid, autre chose, quand tu perds, tu tends la main. C'est-à-dire que tu es vraiment dans l'idée, quand tu gagnes, quand tu perds, tu tends la main. C'est-à-dire que tu es dans l'idée qu'à travers le sport, à travers le jeu, il y a une idée de noblesse qui va être dans la retenue. C'est dans le retenu de la colère et dans la civilisation des morts, pour parler comme notre...
Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est marrant parce que cet esprit maison, on retrouve aussi à l'Ajax. Tu sais, quand Escudé est arrivé à l'Ajax, on lui a fait visiter les installations, ceci, cela, bon, voilà, la salle des trophées et tout. Et à la fin, il y a, je ne sais plus, le directeur sportif ou je ne sais plus qui, il lui a dit, au fait, là, mon pote, tu es à l'Ajax. Pas de chaussures multicolores, chaussures noires. Tu vois le truc, bon, fin de la parenthèse. Je reviens sur...
Parce que là, il le dit, hein, Gruchaga, il dit, c'est pas simplement une question esthétique. On avait besoin de maintenir l'écusson intact.
Voilà.
Tu vois, il y a l'idée de pas de souillure.
Oui.
Ça, c'est la Real Sociedad. Hein, on parle de San Sebastián, on parle pas de l'Ajax.
Mais l'Ajax, c'est un peu pareil, parce que tout le monde veut leur faire la peau. C'est-à-dire que les équipes de jeunes dans la région d'Amsterdam, tout le monde veut les battre. Et tout le reste des Pays-Bas, tout le monde les déteste. Donc, il faut qu'on crée à la fois une éthique qui est à mi-chemin entre une certaine arrogance que l'Ajax revendique, mais aussi une certaine retenue. Mon pote, tu portes le maillot, tu sais ce que ça représente. Fin de la parenthèse. Je reviens sur mes entraîneurs. Quand je parlais d'élégance, c'est pas simplement l'élégance vestimentaire. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Ancelotti, c'est le summum de l'élégance, à la fois dans le jeu, par ses idées, parce que il est fair play. On l'a jamais vu se plaindre. Bon, de temps en temps, il gueule après les arbitres, mais c'est de bonne guerre.
Mais attends, Ancelotti au Bayern, on disait qu'il était paternaliste, vieux jeu, suranné, anachronique. À Naples, pareil.
C'est les Allemands, ça.
C'est ce que je veux dire, c'est que c'est la géométrie variable, quoi. C'est aussi.
Ouais. Mais Ancelotti, pour ce qu'il représente aujourd'hui, je pense qu'il a plus d'admirateurs. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Il a déjà.
Quand il est à Everton, il n'est pas bien. Hein. C'est le
ah non, mais à Everton, il n'aurait jamais dû y aller.
C'est le pire entraîneur de l'histoire d'Everton.
Ouais.
Il fait quand même une série. Il y a eu Bayern, Naples, Everton.
Et Everton, il a eu les moyens parce que c'est James Rodriguez, c'est Alan. Il a vraiment eu les moyens. Ouais.
Non, mais je veux dire, si Ancelotti arrête d'entraîner là maintenant, on retiendra l'Ancelotti du Milan AC et le grand entraîneur qu'il a été au Real, incontestablement. On oubliera le Bayern, on oubliera ses égarements.
Mais en fait, moi je pense que, messieurs, en fait, ouais. Il y a trop d'impératifs. Le football maintenant est beaucoup trop régulé pour laisser la place qui devrait revenir à l'élégance. On parlait du maillot la dernière fois, du maillot vierge de tout sponsor. Mais seuls les clubs immenses peuvent se le permettre, en fait, avec les règles du fair play financier, mais qui vont en plus se réduire. Mais on a maintenant, tu as des maillots third, fourth, des maillots événementiels.
C'est là où l'image a remplacé l'élégance.
Exactement. C'est que l'élégance...
Le bruit a remplacé la retenue.
L'élégance ne paye plus. Malheureusement, l'élégance ne paye plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps.
Parce qu'elle n'est pas commercialisable. Tu ne peux pas commercialiser la retenue.
Elle pourrait l'être, mais en fait, c'est trop aléatoire. C'est-à-dire que tu ferais appel au goût et tu ne ferais pas appel à la répétition. Les gens dans le foot payent pour la sécurité. Tu payes cher pour avoir maximisé en fait, ton potentiel de rendement. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre le risque de faire un maillot, moins de maillots, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus épuré. Parce que tu te dis, mais moi, si j'en fais 4, j'ai un pool de consommateurs de X, et ben je vais forcément en vendre plus. C'est pas sûr, mais tu maximises tes chances. Et c'est idem, c'est te dire, mais moi, je préfère dépenser plus pour 2 joueurs offensifs qui ont des stats que prendre le temps de faire mûrir ce joueur qui est peut-être un peu plus cérébral. Enzo le fait, il n'y a pas énormément de clubs. Je reprends l'exemple d'Enzo le fait, où il pourrait jouer. Ou jouer sa partition. TJ Savagnier, s'il part pas, c'est pas seulement parce que c'est pas un bon joueur. C'est parce que c'est pas forcément évident en fait de faire jouer TJ Savagnier. Martin Odegaard, il est exceptionnel avec Arsenal parce que il a trouvé Mikel Arteta. Mais en équipe nationale, la Norvège, tu ne te qualifies pas tout seul. Mais il a des performances un peu moins bonnes en équipe nationale.
L'Angleterre, les clubs anglais permettent quand même un petit peu plus de pérennité, un peu plus de sécurité dans le temps.
Quand tu as 120 millions d'euros de pounds, garantis en droit télé par an, plus 80% de ce montant en parachute, ouais, ça te permet en fait de prendre quelques risques, de voir venir.
Odegaard est devenu Odegaard à Arsenal et pas au Real.
Ah, mais je suis absolument d'accord. Mais parce que les Anglais, quoi qu'on en pense, ils ont toujours été sensibles à ces profils. Glenn Hoddle, ultra élégant. Ozzy Ardiles à Tottenham, ultra élégant. Paul Gascoigne.
Bellingham.
Paul Gascoigne. Quoi qu'on pense, Paul Gascoigne, de ce qu'il est devenu. Moi, j'ai vu des vidéos de Paul Gascoigne dans les années 80.
Ouais.
Quel joueur, quel
ouais.
flair.
Ah ouais,
enfin,
ouais.
Vraiment, un joueur. David ouais, ouais. Platt, un joueur hyper
David
élégant.
David Platt, ouais, ouais.
C'est un joueur hyper élégant qu'après, qui s'est exporté en Italie.
Chris Waddle, évidemment.
Chris Waddle, Paul Merson. Enfin, c'est toute une... David Rocastle qui est décédé d'un cancer.
Il y a un truc que je voulais qu'on dise sur l'élégance, c'est justement ce que ça me fait penser sur Gascoigne. Tu devais en parler tout à l'heure, Chérif, sur les gauchers. Le fait que Maradona, pour toi, n'est pas forcément un joueur... élégant au sens le plus chimiquement pur.
Ouais.
Il y a, je crois, dans l'idée d'élégance aussi l'idée d'imperfection. C'est pour ça que tu parles des Anglais. Je pense à Gascoigne, qui a toujours été plus ou moins en surpoids. Même à comment il s'appelle, Chris Waddle, qui était bossu. Zidane, ouais. qui en ouais. réalité, Zidane, ce qui est très intéressant, c'est que Zidane, il est toujours à la limite de tomber. Sur tous ses contrôles, si vous les avez en tête, vous verrez que ce qu'il rend beau, c'est que précisément la grâce vient du fait qu'elle peut s'effondrer à tout moment. Il y a quelque chose dans l'élégance qui vient de l'imperfection. Comment tu vas dominer une imperfection, soit physique, soit dans le jeu. Tu parlais de temps tout à l'heure. Effectivement, quand t'as une situation où il faut que tu règles une situation, t'es face à une contrainte. C'est comment tu vas répondre à une contrainte de manière créative. C'est comment tu vas donner du sens à un moment dans la compétition, dans la performance, en créant quelque chose de nouveau. Moi, j'ai en tête vraiment les exemples de Zidane, les fameuses amorties de poitrine de Zidane contre la Roumanie, des situations ouais. où tu te dis, c'est pas possible en fait de résoudre cette situation autrement que par le génie. Et elle est là l'élégance. C'est le moment où tu aurais pu faire quelque chose de dégueulasse. T'aurais pu faire une vieille tête contre la Roumanie, il aurait fait une tête, il l'aurait mis en touche. Ben non, il fait chier à se tourner. C'est la Roumanie, hein, je crois.
Ouais, je crois c'est le Portugal.
C'est Portugal.
La Roumanie, c'est quand tu fais le contrôle. Il
se retourne comme ça. Ça demande une souplesse extraordinaire. Et n'importe quel joueur n'aurait pas même pas essayé la mortie de poitrine. Or, la mortie de poitrine, c'était la seule ressource possible pour pouvoir contrôler le ballon. C'était la seule. Donc, et lui, son objectif était de contrôler le ballon, quoi qu'il en coûte, si je puis dire. Et donc, quoi qu'il en coûte, il est arrivé à faire un geste qui était complètement, presque désarmonieux, même pas harmonieux.
Continue à parler dans ton micro.
Un geste qui n'est même plus harmonieux,
il a qu'il devient son parce qu'il est réussi, parce qu'il arrive au terme de ce qu'il voulait faire, à savoir contrôler le ballon.
Il a travaillé la matière comme un artiste, exactement. La matière de son corps, c'est une matière corporelle. Il y a aussi un truc, l'élégance, c'est juste un truc en passant, j'ai oublié de le dire. Il y a aussi la notion de super-héros dans l'élégance du footballeur. Prenez Cruyff et Beckenbauer, ça je m'en rappelle, quand tu étais sur le terrain, il n'y a pas de problème d'un point de vue de la grâce corporelle, du port altier, des épaules bien droites et tout. Et en fait, ils ont ce statut d'être supérieur parce qu'ils sont sur le terrain. Mais regardez-les quand ils sortent du terrain, quand ils étaient habillés en civil, entre guillemets, en costard et tout ça. Et là, vous voyez toutes les imperfections du corps. Notamment, ils ont tous les deux les jambes arquées. Alors, Cruyff plus que Beckenbauer, parce que Beckenbauer, il était quand même un peu plus élancé, bien, bien droit et tout, à l'allemande. Ah là là, les théories. Et mais regardez les footballeurs.
La Prussienne plus Prussienne.
Regardez les footballeurs. Et c'est pareil pour Platini, je suis d'accord avec ce que tu disais, Thibaut. Platini, il a de la bedaine, il n'a pas d'épaule, il est un peu voûté. En un mot, comme en mille, il ressemble à rien. Sauf que quand le ballon, il arrive, il est grand, il est rapide.
Zidane, les genoux en X, il marche sur l'intérieur des pieds. Ouais. Quand il marche, il est courbé. D'ailleurs, ouais. Il y a le fameux film avec Courbis qui fait la fameuse phrase qui dit « Monsieur et Madame Zidane fait un fils aux caractéristiques physiques bien particulières. » Tu vois. Et il explique comment le mec est en fait à moitié tordu. En fait, le corps est tordu. Et c'est parce qu'il est tordu qu'il arrive à utiliser cette courbure du corps pour inventer en fait un style, inventer une manière de jouer.
Et d'abord, il a un peu comme ça aujourd'hui.
Ouais. Sauf que quand ils ont le ballon, il y a une métamorphose.
Disparaît,
ouais. Tout est parfait. Tout est parfait. C'est la perfection. C'est la conduite de balle. C'est, tu te dis. Surtout, ça qui m'avait marqué, c'est quand un footballeur, c'est comme Superman, quand il revient à la vie civile et que ses lunettes, employé de bureau et tout. Regardez les footballeurs. Ils ont les jambes arquées. On voit tout de suite les défauts. Par exemple, on voit tout de suite que Maradona, il a les jambes trop courtes pour son corps. Qu'il a tous les footballeurs. Par contre, quand ils sont sur le terrain et quand ils ont le ballon, ils se métamorphosent. T'as l'impression qu'ils sont plus grands, qu'ils sont plus rapides, ils sont plus beaux, en fait. Et chez les joueurs particulièrement doués, c'est exponentiel. Un bon joueur qui a le ballon, bon, bah, ok, d'accord. Il est adroit, on va dire, il est adroit. Il est,
c'est une définition de la grâce. Technique. Ouais. La définition de la grâce chez Bergson, c'est ça, c'est
la grâce.
L'immatérialité dans la matière. C'est le moment où tu vas. Il a un texte extraordinaire où il explique ce moment où, à travers la grâce, le moment de grâce, c'est le moment où ce qui semblait matériel, tout à coup, semble avoir une vie autonome. Et c'est le moment où tu as l'impression que toi-même, tu peux guider le mouvement qui arrive. Et c'est exactement ça, Zidane. C'est-à-dire qu'au moment où Zidane contrôle le ballon, on a l'impression que son corps entier a été fabriqué pour contrôler le ballon comme ça. C'est inverse, en fait, le truc. Alors que c'est l'inverse, c'est le corps qui, parce qu'il y a le corps comme ça, qui contrôle comme ça. Non, c'est pour pouvoir contrôler comme ça que son corps a été fabriqué comme ça. Et c'est ça la grâce. C'est ce moment où tout à coup, tu as une espèce de transcendance qui apparaît, mais qui est furtive, tu vois. Ça s'appelle le beau, ça s'appelle le beau geste, ça s'appelle comme on veut, mais c'est ce moment de frisson qui vient justement de cette sensation-là d'immatérialité dans la matière.
Le mot de la fin,
prendre 30 secondes, mais moi je peux pas vous laisser terminer un épisode sur l'élégance sans citer Johan Gourcuff, je pense que
justement c'était ma dernière question. Je voulais que vous me donniez chacun un joueur que vous trouvez élégant dans le
Johan Gourcuff, voilà,
la période actuelle.
Je pense que on a cité énormément d'héritiers de Zinedine Zidane, je pense qu'il n'y en avait qu'un seul, peut-être pas à ce niveau, mais voilà, c'était Johan Gourcuff pour Flo. Énormément de raisons.
Un joueur actuel, c'est un joueur actuel.
Ouais, de
bonne. Actuel,
ouais.
Allez. Parce que le plus beau qui m'a détenu de jouer, moi, c'était Bergkamp. Et pourtant, j'étais pas vieux. Un joueur actuel. Si j'ai, il est sur la fin, mais j'ai adoré l'élégance disco.
Alors lui, pareil, il
rebondit bien aux bêtises là pour le coup.
Alors, et pareil, il a un corps avec un fessier assez important. Il est tout petit. Il est
un peu comme Hazard. Il a un peu même physique.
Ouais, ouais. Mais le
Hazard avait un plus gros cul quand même.
Voilà,
ouais, mais c'est un peu.
J'ai revu des photos là.
Énorme.
Éliminé. On élimine.
Mais Samir Nasri.
Ouais, Samir Nasri était très élégant.
Samir Nasri, c'était pareil. C'était
Rabelais. Les trois
mêmes types de joueurs.
Non, je déconne.
Shérif, t'en as un
Guti, Redondo. Parce que j'aurais pu citer les trois grâces de l'Ajax. C'est bon, j'en ai déjà parlé. Guti, Redondo. Et Guti, que j'ai découvert sur le tard, et je me repens tous les jours d'être passé à côté de lui. Voilà.
Cette passe en talonnade est exceptionnelle.
Et moi, Bellingham.
Bellingham
qui... j'ai en train d'assister... On est en train d'assister à un truc avec Bellingham qui me rappelle Zidane. Mec qu'on n'a pas vu venir, Bellingham, changement de poste, changement de club, et il est en train de prendre une dimension. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il est complètement... il a un rapport mimétique à Zidane. Il a exactement la même. D'ailleurs, tu sens bien qu'il n'a pas exactement le même corps, mais qu'il essaie de faire la même chose. Notamment sur les contrôles intérieurs du pied, sur les jeux de corps, plein de fois, ou les doubles contacts.
Il est beaucoup plus agile que.
Thibaut, ouais. Bellingham dit vamos. C'est un anglais.
Oui. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il a quelque chose. Il se passe un truc mystique avec ce joueur au Real en ce moment. Et ça vaut le coup de regarder le match juste pour voir Bellingham qui a vraiment. Par mimétisme, il a pris le numéro de Zidane. C'est un anglais, le mec n'a rien à voir avec la choucroute. Mais dans ce maillot-là, dans ce stade-là, il se prend pour Zidane et il le fait vraiment très bien. Donc maintenant, la question est, est-ce qu'il va avoir ce style Bellingham? Est-ce qu'il va avoir un style Bellingham? Je pense qu'il est déjà parce qu'il est beaucoup plus offensif.
Ils ont retiré son numéro après un an et demi en pro. Donc comment ils considèrent le joueur.
Et moi, j'avais visité Kevin De Bruyne, qui est absolument exceptionnel. J'ai revu son entrée la dernière fois en jeu, là, quand il revient de 6 mois de blessure, où il fait deux passes.
Quand
mais...
il met...
ça passe ici pour Oscar. Mais c'est pas de l'élégance, Kevin De Bruyne.
Ah, si.
C'est l'élégance de la passe. C'est-à-dire qu'il voit des choses que toi, t'as pas vues. Voilà.
Ah,
mais c'est pas le joueur lui-même qui est. C'est un joueur extrêmement intelligent. En fait, c'est l'intelligence.
Ah, mais moi, je trouve qu'il y a un truc d'élégance
mais dans la
gestuelle, passe.
Il a pas le geste. Oui, mais il a pas le geste élégant De Bruyne.
C'est une élégance différente, je trouve. Ouais, sinon, je voulais quand même citer Paqueta parce que c'est quand même sentimentalement parlant un joueur que j'aime beaucoup. Voilà.
Paqueta, débile.
Messieurs, on va quand même terminer avec nos recommandations culturelles hebdomadaires. Et je vais laisser Thibaut commencer.
Je commence. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Subcampeón de Suárez Gurruchaga. Alors, c'est un livre qui est en espagnol, qui est un livre incroyable que je suis en train de lire. C'est l'histoire d'un type qui est un footballeur, ancien footballeur de la Real Sociedad, qui a été subcampeón, donc deuxième du championnat avec la Real Sociedad de Denouex notamment, et qui est tombé en dépression à cette année-là, et qui raconte qu'il a été le seul joueur de la Real Sociedad qui ne voulait pas que la Real Sociedad soit championne à ce moment-là. Et il a joué assez peu en pro, alors il a joué chez les jeunes avec la génération dorée, Casillas et autres. Et ensuite, il a arrêté sa carrière, il est devenu musicien, présentateur télé, maintenant il est comique, tu vois, et écrivain. Et c'est un mec très intelligent, et c'est la première fois depuis longtemps que je lis un livre, un vrai livre. C'est-à-dire où le mec raconte vraiment ce qui lui est arrivé dans le monde du football professionnel, et notamment comment petit à petit la dépression et la réaction à la pression extérieure s'est imposée, et comment on lit petit à petit... s'est senti un peu en décalage avec cet univers-là. Et c'est très rare d'avoir des livres de ce niveau-là. Il est pour moi, il peut faire une entrée dans le top 10 des livres de foot de tous les temps. Pour moi, je ne l'ai pas fini, mais on est dans quelque chose de... Parce qu'en plus, il est très marrant. Donc, c'est vraiment un livre, j'espère un jour qu'il sera traduit en français. Il est en Gurruchaga.
Ouais, tu nous prépares la petite traduction, toi, non?
Ouais, bah après ça coûte cher la traduction, mais ouais, j'aimerais bien, mais bon, on va en vendre 50, donc c'est parce que personne ne le connaît, même en Espagne, il est assez peu connu, mais en revanche, le bouquin est absolument génial.
Shérif, est-ce que tu as eu le temps de préparer une petite reco, ou est-ce qu'on passe par David d'abord?
Non, j'ai un truc, ça va aller très vite, c'est un bouquin que j'ai reçu la semaine dernière.
Xavier Garcia, à Niçois. Conseiller municipal socialiste.
Vous connaissez David Garcia? Je connais pas.
Oui, bien sûr.
Donc, Perdant Magnifique aux éditions Solar, l'art de s'incliner avec panache en 10 portraits. Et.
Dont un sur Thibaut Pinot.
Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, ça parle beaucoup de sports que je connais pas ou très peu, tennis, cyclisme. Et j'ai pas mal aimé le chapitre sur Vitas Gerulaitis.
Ah ouais.
Tennisman, Playboy, le George Best du tennis que je connaissais pas, que je connaissais pas très bien en fait.
Il y a Netflix,
pardon.
Il y a un Netflix d'ailleurs, si vous voulez voir les autres sur Vitas Gerulaitis.
Gerulaitis. Donc voilà, tout ça pour un petit coup de pouce aussi sur les bouquins de sport qui sortent en France. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Shérif. David.
Rien qu'un perdant magnifique pour un socialiste à Nice, tu m'étonnes.
Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis que Xavier Garcia qu'on embrasse. Ouais. Et qui est, oui. Ouais.
Donc, alors lui, c'est. Alors, si, ni perdant, malheureusement, ni magnifique. C'est, moi, j'ai lu Les Rapaces de Camille Vigogne, le livre sur le système David Rachlin à Fréjus. Et très franchement, je vous assure que ça vaut le détour. C'est entre. Je me suis demandé, en fait, si c'était pas Groland tout au long des pages. C'est à lire. Vraiment, c'est à lire. Je n'ai pas envie de vous spoiler, c'est à lire. C'est un
S'il te plaît, David, redis le titre et l'auteur.
Les Rapaces. C'est Camille Vigogne, en fait. Camille Vigogne, qui a enquêté sur le système David Rachlin du Rassemblement National à Fréjus. Donc, les liens avec les entreprises locales, la façon de gérer la mairie, franchement, lis-le. C'est éclairant.
D'accord.
C'est marrant, Thomas l'a recommandé dans notre live qu'on a fait hier soir aussi, donc ça doit être vraiment bien. Flo.
Moi, c'est une émission de C'est dans l'air, mais c'est pas une de leurs quotidiennes. C'est une sorte de hors-série, comme ils en font 3-4 par an, généralement sur des sujets géopolitiques. Et ils en ont fait un de 2h15 sur, qui était intitulé Démographie, la bombe humaine. Et sur toutes les conséquences qu'allait avoir les écarts démographiques en fonction des pays et des régions, donc des pays comme la France et l'Europe, voire même la Chine ou le Japon, qui sont dans un déclin démographique, à l'inverse du continent africain notamment, et de l'Inde aussi, qui sont dans des grosses expansions, et de toutes les conséquences que ça va avoir, qu'elles soient évidemment écologiques, mais aussi économiques, culturelles, sociales, migratoires.
C'est une émission qui est très intéressante. Aux règles économiques de base et de la révolution industrielle, Chérif, je suis sûr que tu es d'accord avec moi là-dessus, le taux de fécondité va diminuer. Il y a des prévisions démographiques à partir de 2050, c'est une baisse de la population mondiale. Et donc de la baisse de la fécondité de ces continents en particulier.
Ouais, mais d'ici là, le Niger, aujourd'hui est à 25 millions d'habitants. Mmh. Ils seront à 70 millions d'habitants en 2050.
Oui.
Avec 60% de la population ou 70% de la population aujourd'hui qui a moins de 20 ans.
Il va falloir compter sur eux pour la canne alors. Hein.
Ouais, ça va permettre de financer le système des retraites au Niger. On y croit.
ça financera plutôt le nôtre a priori. Ouais, c'est...
Je vais clôturer ces recommandations en recommandant une série qui vient de sortir sur Arte qui s'appelle De Grâce.
Ah, il paraît que c'est bien.
C'est hyper bien. C'est sur les dockers du Havre. Ça raconte l'histoire d'une famille en fait qui s'embrouille un petit peu. Le père fait partie du syndicat des dockers et donc essaie de lutter contre le trafic de drogue. Et le fils est lui aussi docker et justement est en plein dans le trafic de drogue. Donc une famille qui se déchire un petit peu et c'est hyper bien foutu, c'est assez beau visuellement. C'est avec Olivier Gourmet, Pierre Lotin et Panayotis Pasco. C'est bien, franchement c'est bien joué, c'est assez beau, c'est bien foutu, le scénario est vraiment super. Donc je recommande très chaudement. C'est
vrai, Olivier Gourmet qui était top dans Sambre, il a vraiment...
il est dans Sambre. Ah,
c'est bien Sambre.
Ouais. Ah, c'est vachement bien, il paraît. Ouais. J'ai vu que le premier épisode.
C'est sur les tueurs en série, t'aimes pas. C'est sur Dinos qui a
Les flics qui cherchent des mecs qui ont tué des gens, j'en ai marre. Insupportable. Deux trucs sur trois, c'est des flics qui cherchent des gens. Et après, les gens, ils veulent tuer la police. Après, ils disent la police tue, tout le monde est contre les flics. Alors, on passe leur temps à regarder des trucs de flics et d'enquête. J'ai jamais eu autant de promotions pour la police nationale, quoi.
Ouais. Voilà, bon messieurs, on va clôturer cette émission après 1h18 et cette belle phrase de type.
Non, ouais. C'est vrai. Je suis pas contre la police, pas du tout. Je dis juste qu'on passe notre temps à regarder des. Moi, c'est pour ça que j'en ai marre en fait.
D'accord, bon écoute, on continuera ce débat dans notre conversation WhatsApp, ok. Si ça te va. Ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, je le rappelle, à mettre des petits likes, des petits pouces, des petites étoiles et éventuellement, si vous pouvez, à participer, à faire des dons sur notre cagnotte Hello Asso. Tout est disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. C'est hyper important pour nous. Les gars, merci beaucoup. Merci, Chérif, pour cette deuxième participation au Comex. J'espère que tu reviendras. Tu es évidemment le bienvenu pour revenir.
Tout le plaisir était pour moi. Voilà. Tout le plaisir était pour moi. Parfait. Au plaisir de se retrouver bientôt.
Bah, très bientôt, on l'espère. Et merci, les gars. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao, ciao à tous.
Salut.
Ciao.
Bye bye.